Les podcasts de Radio Vatican.
Le pape François est attendu à Dhaka, la capitale du Bangladesh. Il se rend dans un pays qui veut montrer au monde que les différentes communautés cohabitent harmonieusement et que la sécurité a été rétablie. Mais la réalité est plus contrastée. Le pays connaît de fortes dissensions internes. Depuis 2009, il est dirigé par l'Awami League de la première ministre Sheikh Hasina. En 2014, l'opposition, dominée par le Parti nationaliste du Bangladesh, le BNP, a décidé de boycotter les législatives. L'année suivante, des manifestations de l'opposition ont dégénéré et ont été réprimées violemment par les forces de l'ordre. L'approche du prochain scrutin législatif, début 2019, pourrait faire remonter la tension d'un cran, comme le confirme Jérémy Caudron, doctorant contractuel à l'INALCO à Paris.
Il me semble que cette crise politique, elle n'a pas vraiment été dépassée, elle risque même de s'aggraver. Ce qui est assez sûr, c'est que au niveau de la répression, on va dire du parti d'opposition, hein, le Bangladesh Nationalist Party, par le pouvoir actuel, la répression a diminué, de fait, mécaniquement, puisque beaucoup de militants et de leaders du BNP et de la Jamaat Islami aussi sont en prison, ou alors sont empêchés de mobiliser, de manifester, etc. Donc, en apparence, les choses se sont calmées. En revanche, ce qui est à voir, c'est les prochaines échéances électorales, qui doivent avoir lieu normalement début 2019, ce qui fait que toute l'année 2018 va être une année réellement de grande effervescence politique, de grande agitation.
Ce serait un abus de dire que le régime actuel du Bangladesh tend vers un régime autoritaire ?
Ah non, tout à fait, ce n'est pas du tout un abus, c'est même une transition autoritaire. Comme les transitions démocratiques, ça ne se passe pas du jour au lendemain, ce n'est pas forcément quelque chose de directement visible, mais en tout cas, le fait que l'Awami League soit restée un terme, un mandat de plus au pouvoir, ça a largement contribué à ce durcissement du régime, disons.
Qu'est-ce qui a porté l'Awami League à cette dérive autoritaire ?
Le problème de l'alternance au Bangladesh, c'est que ça s'accompagne souvent d'une violence revancharde de la part de ceux qui prennent le pouvoir, de ceux qui arrivent au pouvoir, vis-à-vis du gouvernement précédent. Donc il y a une volonté comme ça de détruire, de défaire tout ce qui a été fait auparavant. Et en particulier de politiser énormément la fonction publique, l'administration, l'armée, etc. pour essayer de verrouiller tout cela et que l'opposition ne puisse plus réellement s'exprimer. De verrouiller aussi le Parlement, bien sûr, pour que l'opposition donc soit la plus faible et la plus muette possible. Donc ce qui a précipité cela, c'est avant tout le fait que l'Awami League est revenue au pouvoir en 2009, donc après 8 ans d'absence du pouvoir, et elle est arrivée avec un programme idéologique de retour aux premières fondations idéologiques du Bangladesh, c'est-à-dire au début des années 70, lorsque le Bangladesh est devenu indépendant, et donc à ce qu'ils appellent cet esprit de la libération, qui est le cœur de l'idéologie de l'Awami League, pour occuper complètement l'espace idéologique et ne laisser absolument aucune place dans cet espace politique au BNP ou à la Jamaat Islami.
Est-ce que cette dérive autoritaire est corollaire du développement du terrorisme et surtout du terrorisme islamiste dans le pays ?
L'islam politique, en fait, n'a plus vraiment d'espace légal pour se développer, pour s'exprimer. Auparavant, il y avait la Jamaat Islami qui s'affichait vraiment comme un parti de gouvernement et qui avait accepté complètement le principe des élections, le principe démocratique, etc. C'était une plateforme très importante, en particulier pour une jeunesse militante qui se dirige plutôt vers cette droite conservatrice ou en tout cas ses programmes d'islam politique. Or, ce parti, il existe presque plus. Enfin, en tout cas, le leadership de ce parti a été complètement décapité. Il y a une grande partie des militants qui se sont retrouvés donc sans leader, sans guide, et qui pourraient être tentés par des organisations plus radicales, qui, elles, ne rentrent pas du tout dans le jeu politique et qui choisissent plutôt l'action violente.
Est-ce que les problèmes de terrorisme pur ont, eux, été résolus ?
La répression a été extrêmement forte, extrêmement féroce. Elle a été tardive. Hein. Il a fallu l'épisode de la Holy Bakery du 1er juillet 2016 pour que vraiment la répression se déclenche, qu'il y ait une prise de conscience de la part du gouvernement du risque terroriste au Bangladesh. Et donc, la répression s'est déclenchée tardivement, mais il y a eu beaucoup moins d'événements, voire pas du tout, depuis le mois de juillet 2016.
Quelle est l'attitude, quelle est la position des autorités vis-à-vis des minorités du pays et, en tout premier lieu, des minorités religieuses ?
Les minorités religieuses, c'est un problème depuis le tout début du Bangladesh, de son indépendance, mais ça remonte à bien plus longtemps. La position du gouvernement vis-à-vis des minorités, il faut savoir que l'Awami League, un petit peu à la manière du Congrès national indien en Inde, est un parti plutôt favorable au sécularisme, c'est-à-dire à une neutralité de l'État vis-à-vis de toutes les religions. et que donc il a toujours été vu comme plutôt favorisant les minorités. Et c'est aussi ça le retour à l'esprit de la libération, c'est-à-dire que le peuple est uni et il n'y a pas eu forcément une religion ou une communauté religieuse qui dominerait toutes les autres.
Que représente la venue du pape au Bangladesh ?
C'est une manière de dire, voilà, on est un pays certes petit, entre guillemets, en termes de puissance économique et politique, mais en même temps, on est un pays musulman, majoritairement, mais il n'empêche que, d'une part, on est un pays qui n'est pas islamique, le sécularisme reste la base de la fondation de l'État. En plus de cela, c'est un pays qui protège ses minorités, en tout cas qui parvient à créer une bonne entente et un développement aussi de ses communautés, y compris de la petite minorité chrétienne qui existe au Bangladesh.
Est-ce qu'on peut dire qu'il vaut mieux être chrétien au Bangladesh que chrétien en Inde, par exemple ?
C'est ça la grande question. Il est vrai que la communauté chrétienne au Bangladesh est de plus en plus éduquée, a de plus en plus accès aux institutions d'éducation supérieure. Donc il y a un véritable développement de la communauté chrétienne. Après, je dirais que ça dépend réellement des époques et des gouvernements en place. Par exemple, au moment de la guerre d'indépendance en 1971, on a eu un départ quand même assez conséquent de chrétiens vers l'Inde. Mais aujourd'hui, avec justement les changements de pouvoir, le fait que le BJP, le Bharatiya Janata Party, donc parti nationaliste hindou, soit au pouvoir en Inde, a en fait débridé beaucoup de comportements anti-chrétiens dans certaines régions, hein, je pense à l'Orissa par exemple, où on a pu voir une augmentation des persécutions contre les chrétiens, parce qu'ils étaient chrétiens. Si les chrétiens parviennent au Bangladesh à profiter aussi du développement économique, et donc à trouver leur place en fait dans le système économique, et puis dans le progrès en fait économique, il y aura de moins en moins un problème avec les chrétiens, de toute façon c'est sûr.
Un entretien réalisé par Xavier Sartre.